Activité physique, nutrition, entraînement, santé mentale, expérience de vie. Voici le balado En action. Une production du groupe Défi. Dans 3, 2, 1, action!
Hey, bonjour, bienvenue à cet épisode de En action. C'est Daniel Rioux, l'hôte de votre podcast. Aujourd'hui, on reçoit une personne qui est vraiment une experte en la matière des commotions cérébrales. On reçoit le docteur Philippe Fay, qui est thérapeute du sport agréé, fondateur des cliniques Cortex, coordonnateur médical de la LHJMQ pour les commotions cérébrales, professeur au département des sciences de l'activité physique à l'UQTR, membre régulier du Centre de recherche en neuropsychologie et cognition à l'Université de Montréal, membre du groupe de recherche sur les affectations neuromusculo-squelettiques à l'UQTR, cofondateur et membre du CA de la Fondation Pierre-Yves Bouchard. Je manque de souffle. Méchante feuille de route.
Merci pour la présentation. Ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui.
Ben oui, c'est ça. Je suis super content de parler d'un sujet qui nous touche présentement, on dirait. Je ne sais pas si vous avez vu hier la collision entre Corey Perry puis John Tavares, on n'a pas encore de diagnostic, mais probablement lié à une commotion cérébrale. Fait que les commotions cérébrales, c'est un sujet qui nous touche de plus en plus. On en entend de plus en plus parler, puis on est là aujourd'hui pour en discuter.
Ben oui, en effet, c'est un peu un hasard, là. Hier, il y a eu cette collision-là. Donc, on le voit clairement, là, c'est peut-être une commotion cérébrale que John Tavares a subi, mais c'est peut-être aussi un trauma crânien un petit peu plus grave, là. Donc, ça va être à voir avec les équipes médicales qui vont prendre en charge, là. Mais c'est sûr qu'il y a des commotions cérébrales, c'est pas juste dans les sports, hein. On peut en avoir dans tous les domaines. Mais bien sûr, dans le sport, il y a beaucoup de commotions cérébrales.
Fait que, ben, justement, on va en parler. C'est quoi une commotion cérébrale? Puis moi, la dernière fois que j'ai consulté pour ça, on m'a parlé de traumatisme crânio-cérébral léger. Moi, c'est ça que j'avais. C'est quoi la différence entre une commotion cérébrale et un traumatisme? C'est quoi toutes ces bibittes-là, finalement?
Ben oui, c'est important d'en parler, puis c'est important d'avoir une bonne définition, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Dans le fond, un traumatisme crânio-cérébral, c'est un traumatisme, donc ça prend un accident qui va venir toucher le cerveau dans la boîte crânienne. Là, il y a plusieurs grades. Donc, léger, c'est le premier grade. Donc, souvent, traumatisme crânio-cérébral léger est associé ou les gens vont appeler ça une commotion cérébrale dans le sport. Et si j'ai des atteintes un petit peu plus structurelles, si le cerveau est plus touché, bien, je peux avoir un traumatisme crânien, donc qui peut être soit modéré ou même grave, selon les séquelles qu'on va avoir et selon les blessures à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc, quand on va parler de traumatisme crânio-cérébral léger ou de commotion cérébrale, au niveau de l'imagerie, le cerveau va avoir l'air complètement normal. On ne verra pas de dysfonction à l'imagerie. Donc, on peut faire des résonances magnétiques, des radiographies, peu importe l'imagerie, on ne va rien voir d'anormal. Par contre, la personne va avoir des problématiques, va avoir des symptômes qui sont plus au niveau fonctionnel. Donc, quand on va observer ça, on va catégoriser ça d'une commotion cérébrale ou d'un traumatisme crânio-cérébral léger. Donc, c'est pas parce que c'est le terme léger là, que c'est léger dans les symptômes, mais c'est vraiment dans la gradation des symptômes puis de ce qu'on observe. Si on parle de traumatisme grave ou de traumatisme modéré, on risque beaucoup plus d'avoir des séquelles à long terme à ce moment-là qu'une commotion cérébrale qui est bien prise en charge.
Puis justement, c'est quoi les risques là, pour de ces traumatismes-là sur le long terme?
Mais ça dépend vraiment de l'atteinte. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Le premier facteur, c'est l'étendue des dommages. Donc, si j'ai une commotion cérébrale, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on va parler vraiment plus de commotion cérébrale, qu'elle est bien prise en charge, normalement, je ne devrais pas avoir de séquelles à long terme. Si c'est ma première commotion cérébrale, par exemple, si quelqu'un a subi plusieurs commotions cérébrales dans un espace de temps très rapproché, par exemple, dans l'espace d'un an, j'ai subi 3 commotions cérébrales. Souvent, plus on avance, plus la commotion cérébrale que je subis va être importante, plus les symptômes vont être importants, plus ça va prendre de temps à récupérer. Bien sûr, ce que je dis là, c'est une généralité. Donc, ça peut arriver, quelqu'un qui a trois commotions cérébrales, puis la troisième, ça serait, il n'y aura pas de séquelles, puis ça va super bien, puis elle se récupère super bien. Puis, il y a une autre personne qui va avoir une seule commotion cérébrale dans sa vie, puis celle-là va être très longue à récupérer. Mais en général, plus on a de commotions cérébrales qui se cumulent, plus ça va être long à récupérer, puis plus on a des risques d'avoir des séquelles. Puis souvent, c'est quand on a des commotions cérébrales qui sont vraiment rapprochées dans le temps. Donc, c'est pas nécessairement un nombre, là. Si on parle de trois commotions cérébrales sur un espace de 20 ans, c'est vraiment pas la même chose pour nous, les cliniciens, que trois commotions cérébrales dans la même année. Les séquelles qu'on peut avoir, ben, c'est des symptômes qui peuvent perdurer dans le temps. Donc, des maux de tête, des étourdissements, différents types de symptômes qui peuvent vraiment perdurer dans le temps. Puis, si tu me permets, je peux peut-être classer ces quatre dimensions ou quatre types de symptômes. Donc, on va avoir des symptômes qui sont physiques. Ce que je viens de mentionner, des maux de tête, des étourdissements, ça, c'est des symptômes qui sont plus physiques. On peut avoir des symptômes qui sont plus cognitifs. Donc, par exemple, les temps de réaction qui sont ralentis, l'attention, la concentration qui sont diminués. Donc, ça va être une autre dimension de la commotion cérébrale qui peut être touchée puis qui peut avoir aussi des symptômes à long terme. On peut avoir des symptômes plus de type affectif. Donc, de l'irritabilité, par exemple, ou quelqu'un qui devient triste très rapidement, qui se met à rire, qui redevient triste. Donc, les émotions peuvent être touchées, puisque c'est le cerveau qui régule les émotions. Donc, ils peuvent être touchés suite à une commotion. Puis, la dernière catégorie qui peut être touchée aussi à long terme, c'est les troubles du sommeil. Donc, les troubles du sommeil qui peuvent être, la personne va dormir toute la journée ou avoir de la difficulté à s'endormir ou ne pas capable de dormir la nuit. Donc, ça va amener d'autres types de symptômes. Donc, ces quatre catégories de symptômes-là peuvent être touchés suite à une commotion. Puis c'est les mêmes choses en termes de séquelles, là, ces symptômes-là, dans le fond, qui vont perdurer dans le temps.
Ça peut être vraiment important en termes de séquelles, une commotion cérébrale. Moi, je me souviens quand j'étais au secondaire, ça commençait cette histoire-là de commotion cérébrale. On commençait à en entendre plus parler. Puis il y avait une genre de... Je sais pas comment dire ça, mais il y a un de mes amis qui était fier là, quand il y avait une petite commotion cérébrale, puis il continuait à jouer, puis pour lui, c'était comme... il jouait au football. Fait que c'était comme valorisé de continuer à jouer quand même. Mais dans le fond, c'est une erreur qui peut avoir des conséquences à long terme.
Ben, c'est sûr qu'une des choses qui est à éviter, c'est de se mettre à risque d'autres problématiques ou d'autres contacts quand on a une commotion cérébrale. Donc, une commotion cérébrale, tantôt j'ai un peu nommé c'était quoi, mais ce que c'est en tant que tel, c'est que on a une réaction chimique. Nous, dans le jargon, on appelle ça une cascade neurométabolique au niveau cérébral. Donc, on va avoir un processus chimique qui se produit dans le cerveau qui est en ébullition. Puis là, on a besoin de repos, on a besoin de guérir. Donc, on veut surtout pas avoir une autre commotion cérébrale. Et c'est pour ça qu'on demande aux athlètes, surtout, par exemple, vous venez de nommer le football, où on va avoir beaucoup de collisions, de face-à-face. C'est un sport de collision. Donc, si quelqu'un a une commotion puis qu'on s'en vient refrapper casque à casque, on risque d'avoir une autre commotion. Donc, c'est vraiment pas idéal. Et ça peut amener d'autres problématiques. Comme je disais tout à l'heure, si on a plusieurs commotions cérébrales rapprochées, ça peut amener des séquelles à long terme.
Okay.
En plus, le fait de, comme vous parliez, là, d'être fier de ça ou des fois de dire, ben, je suis un tough, je continue quand même malgré des blessures, je pense que c'est pas juste relié aux commotions, c'est relié un peu à tout type de blessures. Puis au football, on a une problématique qui est au niveau du sport, c'est que la saison est très courte. Donc, si on manque 2 semaines, par exemple, on va manquer 2 matchs sur 8 matchs, là, en général 8-10 matchs là, dans le football scolaire, là. Donc, c'est le quart de la saison qui est manqué. Si tu joues au baseball, que tu joues 160 matchs dans l'année, si tu manques 2 semaines, tu ne manqueras pas autant de matchs. Donc, au football, il y a aussi cette partie-là de dire, ben, je vais manquer le quart de la saison en manquant 2 semaines. Et peut-être, si j'arrive proche des séries, tu sais, peut-être le coach ne me remettra pas dans l'alignement. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui fait que les gens avaient de la difficulté à en parler. Mais tu sais, dans les dernières années, il y a eu une grande conscientisation. D'ailleurs, même vous m'invitez aujourd'hui pour en parler. Tu sais, il y a beaucoup de conscientisation. Je pense que les gens sont en train de changer un peu leur fusil d'épaule. C'est mieux de manquer 2 matchs de ta saison puis de pouvoir jouer plusieurs saisons que d'essayer de jouer avec ta commotion. Puis finalement, ta saison est finie, mais tes autres saisons qui suivent aussi sont terminées. Donc, il y a cet aspect-là aussi à prendre en considération que les gens prennent de plus en plus conscience, je pense, là.
Moi, je suis allé vous visiter 2 fois, en fait, là, pour des petites commotions cérébrales. Puis L'impression que j'avais, là, puis je veux valider que mon interprétation est comme bonne avec vous, mais c'est un peu comme si je m'étais foulé la cheville, mais dans le cerveau, tu sais. Quand tu te foules la cheville, le lendemain, tu as de la misère à marcher dessus, puis à un moment donné, mais rapidement, tu redeviens capable d'être fonctionnel, sauf que ça prend un certain temps quand même de te réadapter, puis ta réadaptation doit être progressive avant de recommencer à faire ton sport. Sinon, ben tu risques de de te reblesser à la cheville, puis de garder des séquelles à plus long terme, des pertes de mobilité, etc. Est-ce qu'on peut dire que c'est à peu près la même chose avec le cerveau? Si tu as une commotion cérébrale, ton cerveau il est blessé, puis ça va prendre du temps, puis il va falloir réaugmenter progressivement la charge sur ton cerveau avant de pouvoir faire un bon retour au jeu.
Oui, j'aime beaucoup cette analogie, puis j'aime bien ton exemple. La différence, je dirais, puis c'est une différence quand même majeure, c'est que une blessure au niveau du cerveau, une commotion cérébrale, comme je disais tout à l'heure, même à l'imagerie, ça paraît pas. Donc, la personne, elle va avoir des symptômes, avoir des maux de tête, elle va être étourdie, mais puis je nomme ces deux-là, mais comme je disais, il y a 4 catégories de symptômes. Donc, il y en a plus d'une vingtaine de types de symptômes qu'on peut avoir. Souvent, les gens, ils la voient pas, donc eux-mêmes, ils ressentent comme un mal de tête, mais ils disent, ben c'est pas grave, là, je vais m'activer quand même, je vais aller faire mon sport pareil, tu sais, un mal de tête, là, c'est quand même bénin, là, je vais prendre du Tylenol puis ça va passer. Alors qu'une entorse de cheville, c'est possible que si tu marches dessus, tu vas avoir de la douleur, elle est peut-être enflée, tu vas peut-être commencer, même si c'est une entorse plus majeure, commencer avec des béquilles, puis progressivement remarcher dessus. Mais ça se voit, même chose pour une fracture, on va mettre un plâtre pendant 6 semaines, ça se voit. Tandis qu'une commotion, ça se voit pas. Donc, c'est plus difficile de gérer bien comment la prendre en charge. Et l'autre différence, c'est que le cerveau qui gère toutes les fonctions du corps humain, ben il est atteint. Donc, peut-être que des fois, la manière qu'on réfléchit ou qu'on pense est pas tout à fait idéale, puis on pense pas de la bonne façon parce qu'on n'est pas aiguillé. Donc, on va prendre des actions qui sont peut-être pas les bonnes, mais parce que notre cerveau fonctionne pas de façon optimale. Donc, même nous, des fois, on a une commotion, on peut prendre une action qui n'est pas la bonne, puis on s'en rend pas compte, ou même des fois, on va avoir perdu la mémoire, on va faire 10 fois la même action, on la recommence parce qu'on s'en rappelle pas. Donc, le fonctionnement cérébral est affecté, ce qui fait que des fois, les gens vont se mettre plus à risque pour des raisons vraiment pas tant de méconnaissance, mais plus que le cerveau fonctionne pas de la bonne façon, puis il fait faire des actions différentes. Alors qu'une blessure à la cheville, tu vas voir ta cheville, tu dis, ben si je marche dessus, je vais avoir de la douleur, donc je vais arrêter de marcher dessus. Puis je vais aller consulter parce que là, ça fait 3 jours que j'ai encore mal, puis ça a enflé. Tu vas consulter, puis là, tu vas avoir des étapes à suivre. Mais après ça, c'est vrai que des étapes, par exemple, de retour au jeu suite à une blessure, c'est progressif. Bien, c'est la même chose pour une commotion ou une cheville, c'est progressif. Puis on y va pas le jour 1, j'ai une blessure, puis le jour 2, je suis à 100% dans ma récupération. Donc, il y a tout le temps une gradation dans le retour progressif.
Ce serait quoi les grandes étapes, justement, de ce retour-là? Exemple, aujourd'hui, je me fais une commotion cérébrale en jouant au soccer, je frappe ma tête avec un coéquipier, puis là, je suis encore conscient, je ne perds pas conscience, mais je me rends compte là, que j'ai une commotion cérébrale, j'ai des symptômes, etc. Qu'est-ce que je devrais faire? Ça devrait être quoi ma première étape? Puis ça va être quoi les étapes après pour que je puisse revenir sur le terrain de soccer puis recommencer à jouer?
Ouais, ben les grandes étapes générales, puis je veux juste rappeler que chaque personne est individuelle, puis que faut vraiment y aller de façon individuelle. Mais les grands principes en arrière d'un retour au jeu ou d'un retour à la fonction suite à une commotion cérébrale, c'est d'y aller de façon graduelle. Donc la première chose à faire quand on pense qu'on a on a subi une commotion cérébrale, c'est de se retirer des activités à risque. Donc tout ce qui pourrait amener un autre choc à la tête ou un choc indirect ou des chutes. Donc, on veut éviter qu'il y ait un autre mouvement du cerveau dans la boîte crânienne là suite à la première commotion cérébrale. Donc, on veut protéger notre tête. Donc, si on jouait au soccer, par exemple, on va arrêter le match. On va pas faire de pratique non plus. Puis, on va se mettre au repos pendant 24 à 48 heures. Là, le repos, c'est pas de se coucher dans un lit, dans une chambre noire, puis de plus bouger. C'est vraiment, on fait pas d'activité physique intense, puis on se met pas à risque. Donc, on peut prendre une petite marche, on peut être... Mais il faut aussi mettre son repos à off, son cerveau à off. Donc, pas de lecture, pas de devoirs, pas de choses qui font réfléchir, pas de jeux vidéo intenses, des choses comme ça. Donc, on met autant le physique que le cognitif au repos pendant 24 à 48 heures. Puis après ça, si les symptômes ont disparu, souvent ils vont avoir diminué ou disparu, on va commencer par, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de faire un petit peu d'activité physique légère, très légère. Donc, on peut aller prendre une marche, on marche un petit peu plus rapidement, on peut faire un petit peu de vélo stationnaire pendant quelques minutes. Et ensuite, on va regarder ce qui se passe. S'il n'y a pas d'augmentation de symptômes, le lendemain, on va faire une activité un peu plus intense. Donc là, on va faire de l'activité physique intense. On n'est toujours pas dans le sport, on est toujours individuel, donc l'activité physique intense. On fait augmenter le rythme cardiaque, on regarde est-ce que ça provoque des symptômes. On a toujours une période de 24 heures aussi entre ces étapes-là, parce que les symptômes, des fois, peuvent apparaître quelques heures après l'activité qu'on a faite. Suite à cette activité physique intense, on va pouvoir faire des pratiques sans contact. Donc, on va intégrer des gestes sportifs. Des fois, c'est des sports sans contact, là, donc ou des sports individuels. Mais on va faire des gestes plus techniques tout en incorporant de l'activité physique intense. Ensuite, on va refaire des pratiques sans contact. Si on parle de soccer, ben ça va être des pratiques, mais identifiées. Je fais aucune tête, je fais pas de contact rapproché. Si c'est au hockey, ben pas de contact. Et ensuite, quand ça s'est bien passé, on va faire la pratique normale. Si tout se passe bien, on peut revenir au match par la suite. Dans toutes ces étapes-là, faut pas oublier aussi le cognitif. Donc, si on parle de jeunes qui vont à l'école, faut refaire un retour graduel à l'école aussi. Donc, on va commencer par des devoirs ou des lectures pendant 20 minutes environ. Ça augmente pas les maux de tête, ça va bien. On va aussi arrêter l'école au début dans les 24-48 heures, là, si c'était pas la fin de semaine. Donc, on va retourner à l'école progressivement aussi par la suite. Donc, avant de refaire un retour à une activité à risque, que ce soit jouer au football ou que ce soit aller faire de la trampoline, on veut que la personne elle soit revenue à 100% aussi au niveau cognitif. Donc, 100% à l'école, à faire des tâches toute la journée, de son cerveau travail, puis ça va bien. Et qu'au niveau physique, ça va bien. J'ai fait les 6 étapes que je vous ai parlé. Donc, physique intense à la fin avec des pratiques plein contact. Là, on peut revenir au jeu normalement. Comme je dis, c'est des grands principes. Bien sûr, il y a des professionnels de la santé qui sont spécialisés là-dedans, qui peuvent vous prendre par la main ou vous donner des conseils aussi par la suite pour faire ces étapes-là, puis aussi faire des tests. On a plusieurs évaluations qu'on peut faire pour voir si ces symptômes ne sont pas reproduits là, suite à la rémission de la commotion.
Ça peut prendre combien de temps ces étapes-là d'un bout à l'autre? J'imagine, je comprends que ça varie entre les personnes, mais maintenant, c'est quoi le minimum et c'est quoi la durée maximale qu'on peut s'attendre?
Le minimum, je dirais, si on regarde dans la littérature scientifique, là, on voit que ça prend environ 10 à 14 jours là, de bien récupérer d'une commotion cérébrale, qu'il n'y a pas d'autres problématiques associées. Donc, on parle vraiment juste d'une commotion cérébrale, puis c'est pas la troisième dans la même année, tu sais, c'est vraiment ta première. 10 à 14 jours pour un adulte. Les enfants, adolescents, ça peut aller jusqu'à un mois. Donc, si le jeune est symptomatique pendant 2-3 semaines, c'est pas inquiétant. Ça peut être aussi plus rapidement, mais en général, 10 à 14 jours, en général pour les adultes, un mois pour les enfants. Et quand on dépasse le mois symptomatique, on parle de gens qui sont lents à récupérer. Ça peut aller là jusqu'à 3 mois encore. On parle de problématiques qui sont physiologiques là. Quand ça dépasse les 3 mois, ben on tombe dans des phases plus chroniques. Puis là, c'est vraiment important, si vous n'avez pas encore consulté avant 3 mois, de vraiment consulter pour pas que ces symptômes-là restent vraiment très longtemps là, parce que on a un peu une barrière de quand ça arrive à la barrière de 3 mois. Souvent, on va tomber dans une phase de chronicité où les symptômes peuvent rester vraiment, vraiment longtemps si on s'en occupe pas avec une équipe interdisciplinaire.
Puis là, ben, vous parlez d'équipe disciplinaire. Tantôt, vous avez parlé de professionnels de la santé. C'est qu'on va voir quand on a une commotion cérébrale?
Ben, idéalement, si vous avez un médecin de famille, c'est de commencer par le médecin. Le médecin de famille qui peut aller évaluer le besoin d'aller plus loin. Ça dépend aussi des facteurs de risque. Sinon, on a besoin d'une équipe interdisciplinaire qui va aller cibler les catégories que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on va avoir besoin de professionnels de la santé qui vont cibler les besoins physiques, donc les symptômes physiques comme les maux de tête, les étourdissements, tout ce qui est des physiques. Donc, pour ça, on peut avoir des gens comme les physiothérapeutes, les thérapeutes du sport qui sont spécialisés dans la sphère physique. Ensuite, tout ce qui est cognitif. Donc, temps de réaction, l'attention, la concentration, on on va parler plus à ce niveau-là d'un neuropsychologue là, qui va pouvoir s'occuper de cet aspect-là. Bien sûr, je parle de plusieurs professions, mais qui vont travailler en équipe parce que le patient, lui, il y a plusieurs types de symptômes, mais c'est le même patient. Donc, on va parler d'un neuropsychologue. On peut aussi parler d'ergothérapeute là, qui peut embarquer dans cette équipe-là. Tout ce qui est troubles du sommeil, on peut impliquer encore une fois soit la neuropsychologue, on a aussi des kinésiologues là, qui peuvent s'occuper de toute la partie physiologique, le retour au jeu au niveau des exercices. Donc, on peut aussi avoir des kinésiologues qui vont être impliqués. On a tout ce qui est au niveau affectif. Donc là, à ce moment-là, on va être plus dans la sphère psychologique, donc avoir des psychologues qui peuvent venir s'occuper de ça. Donc, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir toute l'équipe en même temps qui va s'occuper de toutes les problématiques parce que certaines personnes vont avoir plus une problématique physique. Donc, ils vont avoir des problématiques en même temps que la commotion. Ils vont avoir eu une dysfonction au niveau du cou. Donc, on va aller évaluer le cou au niveau de l'oreille interne qui va s'occuper de tout ce qui est l'équilibre. Donc, on a des spécialistes qui peuvent aller voir ça. Des gens qui vont être plus au niveau affectif que la commotion va avoir beaucoup d'impact. Donc, on va avoir besoin plus de niveau psychologue de ce côté-là. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'aide dans le retour progressif avec les étapes. Donc, ça va être les thérapeutes du sport ou les kinésiologues aussi qui peuvent s'occuper de ça pour aider la personne à y aller au rythme sans exacerber les symptômes. Donc, cette équipe-là. Puis, bien sûr, on a le médecin là que on peut voir un peu comme un chef d'orchestre là, qui va un peu coordonner tout ça. Si on a besoin de médication, le moins possible, on veut impliquer de la médication, mais des fois, on a besoin d'une petite médication pour aller aider le patient à bien se rétablir. Donc, le médecin va vraiment gérer l'équipe globale de tous les professionnels que je vous ai mentionnés. Bien sûr, il peut y avoir d'autres professionnels aussi qui sont impliqués, mais en général, ça, c'est ceux qu'on retrouve le plus souvent là dans le domaine des commotions cérébrales.
Cool. Fait que là, ça c'est bien pour les traiter, les commotions cérébrales, mais après ça, j'imagine que l'idéal, c'est de les prévenir. J'imagine qu'il doit y avoir plusieurs axes là-dessus. Il doit y avoir un peu des axes, je sais pas comment dire ça, mais dans la culture du sport. Exemple, les batailles au hockey, c'est dans la culture du sport, mais peut-être qu'on peut changer cette culture-là. Il y a aussi, j'imagine, un axe de design des environnements intérieurs, là. Je veux dire, un mur, mettons, en béton proche d'une surface de jeu, ben c'est un danger, là, tu sais. Fait que sur quoi est-ce qu'on devrait travailler pour essayer de prévenir le maximum de commotions cérébrales?
Ben, il y a plusieurs éléments qu'on peut travailler. Un des premiers éléments, vous l'avez mentionné, c'est l'environnement du sport. Donc, que les équipements soient bien adaptés. Si on parle de football, ben que oui, les gens ou les jeunes ont un casque, mais est-ce que le casque est bien adapté? Si le casque est mal ajusté, ça peut être une problématique, ça peut créer des risques de blessure. Donc, peu importe le sport, s'il y a des sports qui ont des équipements, il faut que les équipements soient bien adaptés. Quand je parle d'équipements, ça peut être aussi des équipements externes à l'athlète ou au joueur. Là, par exemple, des poubelles sur le bord d'un terrain de soccer qui sont vissées là ou qui sont mal placées. Donc, aller voir ça. Il y a certaines normes qui existent dans certains sports. Donc, à ce niveau-là, bien ajuster les équipements et que les équipements aussi de l'environnement soient sécuritaires. Ça, c'est important. Ensuite de ça, on parle des règles dans les sports. Donc, il y a certains sports qui ont certaines règles. Vous l'avez mentionné, les bagarres. Si on limite les coups à la tête, c'est sûr que ça va diminuer le risque de blessure. Donc, moins de coups à la tête peut amener à moins de commotion cérébrale. Il y a un sport là au niveau du taekwondo où il y a quelques années, ils ont changé les règles de dire dans ce sport-là, quand tu touchais la tête avant, ça donnait un point. Puis maintenant, si tu touches la tête, ça donne 3 points. Puis je pense que, je ne suis pas un spécialiste du taekwondo, mais il y a une autre règle qui s'en vient ou peut-être elle est déjà en place maintenant. Mais c'est à l'étude que si tu donnais un coup de pied sur la tête de ton adversaire puis tu réussissais, là, c'était rendu 5 points. Ce qu'ils ont vu en mettant ce nouveau système de pointage-là, ben, c'est que les commotions cérébrales ont augmenté en flèche là, dans le taekwondo parce qu'avant, tu touchais la tête ou tu touchais la poitrine, ça donnait un point. Maintenant, si tu touches la tête, ça va donner 3 points. Donc, on a vu les commotions cérébrales augmenter de façon importante dans ce sport-là. Donc, au niveau de la prévention, il y a ça. Puis au niveau individuel aussi, c'est important de le mentionner, il existe maintenant des programmes de renforcement musculaire du cou, par exemple. Donc, si on va aller favoriser le renforcement musculaire au niveau cervical. On va avoir une meilleure absorption de l'énergie quand je vais avoir des mouvements de la tête. Si j'ai un bon contrôle moteur, ça va permettre d'amener une prévention en termes de commotion cérébrale. Donc, je dirais que c'est les trois grandes lignes, là. Prévention au niveau des équipements, prévention au niveau de l'ajustement des équipements. Ensuite de ça, tout ce qui est au niveau des règles, le fair play, toutes les règles qui existent, les coups à la tête, si on élimine ça, c'est l'autre chose. Et en dernier lieu, vraiment, renforcement musculaire au niveau cervical. Puis quand je dis cervical, ça peut aussi aller au niveau de, je sais pas s'il y a des professionnels de la santé qui nous écoutent aujourd'hui, mais tout ce qui est ceinture scapulaire, donc les omoplates, tout ce qui est la musculature, pour avoir un bon contrôle, ça va aider à limiter l'énergie là qui peut être déplacée au niveau de la tête, puis aider à prévenir les commotions. Puis je dirais aussi, après ça, ça c'est vraiment pour la prévention. Une fois que quelqu'un a une commotion cérébrale, il y a un autre type de prévention à faire, je dirais, pour éviter qu'il y en ait une deuxième, mais rapidement reconnaître la commotion par les coéquipiers. Fait que nous, on fait beaucoup d'éducation chez les jeunes, dire voici c'est quoi une commotion cérébrale. Ton chum, là, à côté, il a pas de l'air normal, il va pas bien, mais peut-être qu'il s'en rend pas compte qu'il y a une commotion parce que son cerveau fonctionne pas bien. Toi, tu le reconnais, va le dire à ton coach, va le dire à ton thérapeute du sport, va consulter parce que on veut pas justement qu'il y en ait une deuxième rapprochée qui va faire que là, tu vas avoir des symptômes à long terme.
C'est excellent. Je me permets de reparler un petit peu des équipements parce que, à mon sens, là, il y a des... Je veux dire, je le vois, il y a des games de soccer, des games de plein de sports qui se jouent dans des équipements qui sont... Je peux pas croire qu'ils sont conformes. Je sais qu'il y a des gens qui jouent là, mais je crois pas à ça. Est-ce qu'on devrait condamner ces endroits-là? Puis est-ce que, mettons, c'est qui est responsable de ça? Est-ce que c'est la Ligue de soccer qui s'organise là? Est-ce que c'est la ville qui met ce terrain-là à la disposition des gens? Mais comme il y a des endroits là où il faut arrêter de jouer, là. Puis ça me semble comme urgent, là. Fait que c'est qui devrait être responsable de ça? Puis c'est sur qui il faut faire pression pour que les endroits où on joue les différents sports soient le plus conformes possible?
Mais ça, c'est vraiment une grande question. Puis je pense qu'il y a plusieurs niveaux de paliers à répondre, là. Par exemple, si on est sur des plateaux qui appartiennent à la municipalité, je pense que c'est au niveau de la municipalité qu'il faut aller voir. Il existe des normes pour les terrains, pour les équipements, puis il existe des normes aussi pour les équipements de sport comme les casques. Donc à ce moment-là, si par exemple le casque est mal ajusté, des fois c'est pas nécessairement une question de mauvaise foi, c'est qu'il y a peut-être personne qui sait comment ajuster un casque. Des fois on voit ça, les casques sont passés dans les écoles, sont passés année après année aux plus jeunes. Quand on voit les jeunes à l'adolescence, là, on peut avoir des jeunes de 12 ans qui est un petit peu plus frêle, puis l'autre à côté, il a le même âge, mais il est déjà beaucoup plus bâti. Ils vont donner le même casque. T'sais. Donc, l'ajustement, si on parle d'ajustement d'équipement personnel, ça peut faire partie aussi de certaines règles. Si par exemple, on regarde dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le port du casque est obligatoire, mais l'ajustement du casque est fait par les thérapeutes du sport. Et ça va être les arbitres qui vont avertir l'athlète si le casque est mal ajusté. Donc, c'est comme il y a plusieurs niveaux, là. Donc, ça dépend vraiment du plateau. Si on parle de plateaux, des fois, qui sont loués dans les écoles, ben là, ça serait l'école qui serait responsable de son plateau. Donc, c'est vraiment, je pense, l'important, c'est de garder l'œil ouvert. Puis, quand on voit une situation à risque, d'en informer les personnes ressources. Donc, si on est dans une équipe, en informer notre entraîneur. Si on est un parent d'un enfant, on dirait... Je pense que cet équipement-là n'a pas l'air tout à fait fonctionnel ou n'a pas l'air sécuritaire. Et là, lui, le coach peut parler à son supérieur parce qu'il va savoir c'est qui gère les terrains. Donc, c'est vraiment une question quand même plus globale. Puis, je pense que ça revient à tout le monde un peu à regarder si on voit quelque chose de non sécuritaire, d'avertir la personne en charge de l'activité en cours. Là.
Puis, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête depuis tantôt. Là. Je pense que c'est sur Netflix que j'avais vu un documentaire sur les commotions cérébrales, puis ça parlait de micro-commotions cérébrales qui viennent de des chocs répétés. Exemple, tu joues au soccer, tu fais des têtes très, très régulièrement, puis tu en pratiques beaucoup. D'ailleurs, je pense que c'est plus recommandé de pratiquer les têtes là, pour les... Je me souviens plus, U7 ou U8, là, ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est un phénomène qui est réel, ça, les micro-commotions cérébrales ou les micro-chocs à la tête qui seraient néfastes?
Mais ça, c'est une question super intéressante, puis Puis, je pense qu'on n'a pas les réponses en 2021 encore, là. On est en train de se pencher sur la question, justement, dans la littérature scientifique. Il y a beaucoup de recherches qui regardent ça. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a plusieurs sports, notamment le soccer, où il y a beaucoup de têtes, mais au football, on va avoir beaucoup de têtes au contact. C'est des milliers de coups à la tête, là. Puis, quand je dis des milliers, là, pour un joueur qui joue dans la NFL, là, si on regarde de son parcours de secondaire jusqu'à la NFL, ça peut être 10 000 coups à la tête là, qu'il y a eu. Là. Donc, des coups répétés qui n'ont pas nécessairement provoqué une commotion cérébrale à chaque fois, mais on se rend compte que peut-être ces gens-là auraient des dysfonctions là, plus tard dans leur vie. Là. Donc, leur cerveau, peut-être quand il arrive à 55, 60 ans, il s'est âgé, il est devenu âgé un petit peu plus vite que quelqu'un qui n'aurait pas joué au football et eu un multiple contact à la tête. Donc ça, c'est comme des constats qu'on a eus. Et on a commencé à se pencher sur la question des micro-commotions ou des multiples coups à la tête comme ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas de recherche claire qui démontre vraiment ça parce qu'on s'est rendu compte de ça. Mais si on prend puis on s'est vraiment rendu compte de ça en premier lieu chez les joueurs de la NFL. Mais tu sais, ces joueurs-là, ils prennent aussi beaucoup d'antidouleurs, ils prennent beaucoup de substances. Ils ont beaucoup d'autres aspects aux alentours qui font que est-ce que c'est vraiment juste les coups à la tête là, qui ont provoqué ça, ce qui pourrait être le cas, mais pour l'instant, comme je dis, on ne le sait pas, ou d'autres facteurs. Donc maintenant, justement, il y a des études qui sont faites au soccer ou même il y a une étude à Montréal là, qui est en train de se faire à l'Université de Montréal où ils ont pris des joueurs de soccer puis ils nous ont fait faire des milliers de têtes. Ils vont analyser par imagerie là, qu'est-ce qui s'est produit au niveau cérébral. Mais pour l'instant, on n'a pas la réponse vraiment coulée dans le béton à cet effet-là.
Je comprends. Puis en terminant, vous êtes impliqué aussi dans la fondation Pierre-Yves Bouchard. Moi, c'est drôle, je suis allé à l'école là, avec Pierre-Yves là, au secondaire puis à l'université. Puis, dans le fond, c'est quoi la mission puis le rôle de cette fondation-là?
Bien, la mission de la fondation Pierre-Yves Bouchard, c'est vraiment d'aider les gens qui ont subi des commotions cérébrales dans un contexte sportif. Pour ceux qui ne le savent pas, là, dans le fond, Pierre-Yves, c'était un joueur de soccer. Puis, il jouait au soccer dans un tournoi de soccer intérieur, dans un cégep. Puis, c'est pour ça, tantôt, on parlait d'équipement puis on parlait d'environnement. Lui jouait dans un environnement où les lignes de soccer, les lignes du terrain comprenaient les murs. Ça veut dire qu'on pouvait utiliser les murs comme ligne, ce qui faisait qu'il n'y avait pas de ligne de terrain en tant que. Et lui, il a trébuché, il s'est tapé la tête là, sur un mur de béton. Et un mois plus tard, là, il en est décédé. Donc, à partir de là, moi, j'avais contacté Denis Bouchard, qui est son père. Et on jouait au soccer, Denis et moi, là, dans des ligues de vieux crampons, là, dans des ligues de petits vieux. Là. Puis j'avais dit à Denis, on devrait faire une fondation là, pour aider ces gens-là qui ont des accidents dans les sports parce que les gens qui ont des commotions cérébrales en accident d'auto, ben ils ont quand même de l'aide au niveau de la SAC. Ceux qui ont des accidents de travail, ils ont de l'aide avec la CNSST. Au niveau sportif, il n'y avait pas tant d'aide à ce niveau-là. Ça fait quand même une bonne dizaine d'années là, que la fondation existe. Et donc, la mission, c'est vraiment d'aider ces gens-là, que ce soit pour aider, par exemple, à payer des traitements dans des cliniques interdisciplinaires, que ce soit pour acheter un équipement parce qu'ils ont une commotion, ils ont besoin d'un équipement pour s'améliorer. Donc, on va vraiment aider ces gens-là. Et il y a plusieurs activités. C'est sûr que dans la dernière année, il n'y a pas eu beaucoup d'activités parce qu'on fait souvent des activités en présentiel. On a annuellement, on a un tournoi de soccer là, qu'on va faire qui va amener des fonds à la fondation. On fait aussi des événements de bière et saucisse, là, dégustation de bière et saucisse. Donc, tout ça a été annulé cette année, l'année dernière, à cause de la pandémie. Mais les gens peuvent faire des dons aussi en ligne là, sur le site internet de la fondation qui est fondationpy.com. Et PY, nous, on appelait Pierre-Yves PY. Là. Moi, je connaissais bien Pierre-Yves aussi parce que c'était l'entraîneur de mon garçon, là, entraîneur de soccer de mon garçon. Donc, c'est ça. La fondation, c'est vraiment pour aider les gens qui auraient besoin d'aide, là, que ce soit suite à leur commotion qui s'est produite dans les sports ou une activité physique. Là, il s'agit juste de contacter la fondation, puis il y a un comité qui est mis en place pour évaluer les besoins. La Fondation a aussi aidé plusieurs équipes de sport, par exemple des équipes secondaires, pour équiper des casques avec des technologies pour essayer de prévenir les commotions. Donc, on est très actifs là, dans ces différentes sphères-là.
Bien, merci beaucoup. Fait que, j'imagine que vous êtes aussi, vous travaillez, vous êtes fondateur des cliniques Cortex, de la clinique Cortex. Si, vous êtes, si on est dans la région de Québec, on peut consulter chez vous. J'imagine que c'est un bon endroit si on a une commotion cérébrale.
Ben, tout à fait. La clinique Cortex, c'est une clinique interdisciplinaire là, avec les professionnels de la santé que je mentionnais tout à l'heure. Il n'y a pas besoin d'une référence médicale, donc c'est un accès direct, là, juste à appeler à la clinique. On a aussi un site Internet qui explique c'est quoi une commotion cérébrale, qui explique c'est quoi les services, qui explique un peu l'équipe interdisciplinaire. Puis, comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a une commotion cérébrale qu'on a besoin de toute l'équipe interdisciplinaire. Là. Des fois, on va avoir besoin juste d'un thérapeute pour au niveau physique. Des fois, on va avoir besoin juste de la neuropsychologie. Des fois, on va avoir besoin juste d'un aspect plus... Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aller voir le site Internet de la clinique Cortex pour cet aspect-là. Puis sinon, appelez, on peut aussi vous répondre par téléphone. Mais c'est sûr, on a une clinique interdisciplinaire dans la région là, qui est très bien équipée là, pour les gens qui ont subi une commotion.
Excellent. Ben, merci beaucoup. Je pense que ça nous a éclairé. Puis maintenant, on est mieux outillés pour faire face si on a à la situation, si on est témoin d'une commotion cérébrale ou si on en a une. Et on va savoir comment se diriger. Merci beaucoup.
Ben, merci beaucoup pour l'invitation.
Ça fait plaisir. Bonne journée.
Bonne journée.